Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Stéphanie, dès notre première rencontre, elle m'impressionne par son bagout, sa prestance. Je sens une force et un franc-parler qui font mouche. Puis, progressivement, elle dévoile une autre part d'elle-même. Sensuelle, sensible, plus douce, plus vulnérable aussi, quand, dans ses écrits, elle aborde la thématique de la relation au corps, la sienne, avec tous ses souvenirs marquants. Tout ça crée un cocktail percutant que l'on pourra bientôt parcourir dans son premier recueil de textes. Eh bien voilà, je suis avec Stéphanie et je suis ravie de t'avoir. Ça fait vraiment plusieurs mois que je pense à t'inviter. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui parce que tu vas un petit peu nous raconter ce qui se passe de ton côté. Mais je pense que cette rencontre arrive à un moment juste par rapport à ton processus d'écriture. Mais avant tout, Stéphanie, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Qui es-tu ?
Bonjour Héloïse, je suis contente de te revoir en chair et en os.
Oui, oui.
Moi c'est Stéphanie Delville, j'ai 40 ans, j'écris, je travaille sur mon projet d'écriture depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc, j'avance, j'évolue et j'espère atteindre mon but très, très bientôt. Je le sens qu'il se rapproche.
Oui, oui.
Voilà.
Oui, je vois que ça se rapproche aussi. Et quand c'est comme ça, c'est quasiment fini, quoi. Ça va se faire, comme on dit.
Ça va se faire. Quasiment fini, c'est pas sûr.
Oui, après, il y a toujours un petit côté où, qu'on arrive au bout d'un process, je crois qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a des mouvements particuliers qui s'opèrent généralement. Avant de parler de ton projet d'écriture de manière spécifique, toi et l'écriture de manière générale, c'est quoi cette relation entre vous ?
Moi et l'écriture de manière générale, c'est arrivé très tard, en fait.
Ah ouais.
Donc, oui, j'aime la langue française, j'aime les mots, j'aime pas du tout ce qui est mathématique et trop scientifique. Mais en fait, l'écriture est vraiment arrivée tard. C'est un ancien compagnon qui, un jour, m'a dit « Oh, je vais à un atelier d'écriture, est-ce que tu veux venir avec ?»
Ah ouais.
Qui m'a traînée, littéralement traînée. Mmh. Parce que je me souviens, c'était un des derniers jours de septembre où il faisait beau et il voulait que j'aille payer quelqu'un pour écrire. Donc moi, ça me paraissait totalement absurde. J'y suis allée et j'ai découvert qu'en fait, je pouvais avoir une pulsion vers de l'écriture. Et puis par la suite, quand la pulsion venait, j'écrivais quelques mots. Et puis par la suite, quand cette pulsion venait, que j'écrivais quelques mots et que je me disais « ouais, c'est pas mal », il m'est arrivé de publier sur Facebook et à ma grande surprise, d'avoir des retours positifs du type « c'est qui a écrit ça ? C'est de toi ?» Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit « oui, il y a peut-être quelque chose à faire ». Mais donc, c'est venu, je pense que cet atelier, je devais avoir 30 ans, j'en ai 40 maintenant.
Ouais. Ah, oui.
Donc, c'est pas l'adolescente qui a noirci des cahiers, non, pas du tout.
On n'est pas du tout dans cette image-là, en fait.
Pas du tout.
Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est gai d'inviter des personnes ici parce que chaque relation, chaque histoire est différente. Et j'ai beau te connaître depuis plus d'un an, peut-être deux.
Peut-être deux, oui.
Et tu vois, j'apprends déjà des choses à ce niveau-là. 30 ans pour découvrir cette pulsion, j'aime bien le mot que tu emploies, pulsion, il y a quelque chose de physique, j'imagine. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à cet atelier, ce tout premier atelier, cette toute première rencontre avec j'ai un stylo, un calepin, je ne sais pas comment c'était, qu'est-ce qui se passe ?
Alors en fait, ça se faisait à l'extérieur, ça se faisait à Bruxelles. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout la ville. Mmh. Et ben, on a un petit peu découvert, écrit sur ce qui se passait. Difficile au départ, parce que ben, est-ce que ce que j'écris est bien, est-ce que ce n'est pas bien, ce n'est pas grave, j'écris quand même. Le fait aussi d'y aller avec les pieds de plomb n'a pas arrangé les choses. Et je faisais quand même du théâtre depuis quelques années avant. Et en fait, j'ai vraiment vécu le théâtre et l'écriture comme étant en relation.
Ouais.
Et bah, les moments où j'avais pas envie d'écrire à cet atelier, c'était bah, « c'est pas grave, je joue et j'écris ce que je joue mmh. ». Et je suis partie dans cette voie jeu-écriture.
Ah, c'est génial, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu produisais peut-être des choses spontanément dans le jeu et que tu transposais, je peux dire,
oui.
sur papier après.
Oui,
quoi.
Un
ah,
peu.
Oui, oui. Et comment ça s'opère le renversement alors de maintenant j'ai quelque chose à dire et là j'y vais. Comme tu disais, parfois tu sentais une impulsion et tu y allais. Mm-hmm. Comment ça se passe ces premiers moments où spontanément tu t'y mets toi-même
Les premiers moments où je m'y mets moi-même, c'est de la musique. C'est de la musique dans la tête. C'est des mots qui se répètent. Des assonances, des rythmes dans la tête, des phrases qui sont élaborées sur des répétitions, sur des consonnes. Mmh. J'aime beaucoup écrire comme ça, j'aime beaucoup écrire avec des répétitions. Et donc, en fait, c'est une musique qu'il faut que je mette sur papier et puis que je complète.
Quelle belle image déjà, je trouve, d'amener ça comme ça. Et en plus, cette notion très symbolique que tu amènes ici, je trouve qu'elle te colle vraiment bien parce que pour avoir entendu tes textes, mm-hmm. Il faut savoir qu'en atelier d'écriture, ben, y a un moment où on partage les lectures à voix haute. Et,
oui.
et dans ton cas, c'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que non seulement le texte, si je le reçois, je peux le lire oui, sur Facebook, ou, on sent déjà le rythme, on entend déjà les assonances et les jeux avec les sonorités, mais quand tu le mets en voix et que tu nous l'offres, tu nous le partages, la musique, elle est vraiment là.
Et je prends beaucoup de plaisir non seulement à écrire, mais aussi à dire les textes. Et c'est peut-être ce qui me manque aussi dans la période actuelle, c'est que on a plus cette possibilité de mettre en voix, en tout cas beaucoup moins.
Ouais, clairement.
Et voilà, j'aime dire mes textes, mm-hmm. Les mettre en voix, leur donner la couleur que j'ai vraiment envie de leur donner, parce que même si à l'écrit, elle transparaît, surtout quand on me connaît, je pense.
Oui, oui, oui.
je pense qu'on entend ma voix à la longue.
Oui, vraiment, c'est
mais
bien.
Voilà, il y a l'écrit et puis ben, l'oral apporte encore une touche en plus.
Oui, en fait, ça étoffe. C'est comme si tu amenais un écrin à ton texte, quoi. Et on reçoit vraiment tout. Je trouve ça merveilleux. Et au moment où tu parles, j'ai un souvenir, une image très nette qui affleure à mon esprit. C'est le tout premier atelier où tu es arrivée. Voilà, au mot qui délivre, et j'étais très impressionnée. Je me suis dit, mais la première fois où tu lances un texte et où tu le mets en voix, et je vois tout ton corps et ta stature et la manière dont tu l'amènes, et j'étais là, ok, waouh, on n'a pas affaire à n'importe qui ici, et c'était une heureuse surprise. Et c'est quelque chose que très rapidement, quasiment instantanément, j'ai reçu. J'ai compris que Stéphanie Delville, c'est l'écriture et la mise en voix. C'est quelque chose qui a été marqué très tôt dans mon esprit et je trouve que c'est quelque chose qui est très spécifique à ce que tu apportes dans le monde, dans le domaine de l'écriture. Et oui, j'entends qu'il te manque pour l'instant, enfin qu'il manque à plein de gens finalement.
Oui, qui manque, mais qu'on imagine, qu'on projette. Mm-hmm. Et bon, après l'écriture, pourquoi pas la mise en voix de certains textes, pourquoi pas la mise en scène, pourquoi pas... Mais on va toujours finir d'écrire.
Ah oui, je sens que ça s'emballe. Et puis, ok, retour à la réalité.
Mais au départ de mon projet, c'était un projet double, en fait.
Ouais. Eh bien, écoute, on va y venir justement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes qui écoutent aussi le podcast. Ce projet en cours, il est très particulier, il est très spécifique. Il colle vraiment à ton individualité, je trouve. Est-ce que tu peux lever le voile ? Divulguer déjà certaines choses ici. C'est quoi ce projet avec lequel tu travailles, si j'entends bien, depuis presque 3 ans?
Oui, donc en fait, c'est un projet sur lequel, oui, je travaille depuis un tout petit peu plus de 3 ans. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'ai une copine, Maryse Verdaute, qui anime des ateliers d'écriture à Moucron, mm-hmm. Qui avait lancé un week-end de « ça y est, j'écris mon livre », enfin, un type de projet comme ça. Et j'étais allée sans idée préconçue, mais en même temps, en sachant que j'avais des choses à dire, J'y suis allée en train, donc j'habite à Verviers, j'ai fait Verviers-Moucron, j'ai eu le temps de réfléchir à mon projet.
Voilà, tout un voyage.
Tout un voyage, intérieur et, voilà. et physique. Et en fait, je suis obèse depuis que je suis petite. J'ai vécu cette relation avec la nourriture, avec le corps, avec la société. Mmh. Et il y avait des choses que j'avais envie de dire. Et je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Mmh. Et donc, pas simplement des choses totalement larmoyantes ou totalement en colère. Ou je pense avoir mixé un peu de colère, de... Beaucoup d'humour, j'espère, peu de légèreté. Voilà, donc, et j'avais envie d'expliquer ce que c'est la vie d'une personne en surpoids, obèse, dans la société actuelle. Pas simplement ce qu'on peut se dire avec les vêtements trop petits ou les regards moqueurs ou les choses ainsi, j'en parle aussi, mm-hmm. mais peut-être simplement le fait qu'une personne qui est hors norme dans notre société, on est contraint finalement de faire des créneaux en permanence, ouais. parce que est-ce que le corps passe, est-ce que il va pouvoir s'asseoir sur le siège de la terrasse qui a des accoudoirs, est-ce que on va savoir se mettre sur la banquette. Et en fait, je voulais aussi parler de cette charge mentale permanente, mm-hmm. que les personnes qui ne sont pas directement concernées ne peuvent peut-être pas imaginer. Et donc en fait, je voulais dénoncer certains comportements comme on peut l'imaginer, mais aussi expliquer quelle est la réalité quotidienne d'une personne qui est hors norme.
Oui, oui, oui. Et je trouve que pour avoir déjà eu quelques aperçus, en privilège, vraiment, je me sens privilégiée d'avoir eu accès à ça. Tout ce que tu viens d'amener comme attention, je le valide à 100%. Il n'y a pas de côté larmoyant. Il y a des choses qui sont très justes, qui semblent très sincères, mm-hmm. mais aussi très pertinentes. Et en fait, qui nous ont fait prendre conscience avec certaines autres personnes du cercle d'écriture, nous-mêmes, prendre conscience de certaines réalités, effectivement, avec le ton et le style qui est toujours le tien. Et c'est ça qui est savoureux aussi, c'est qu'il y a une thématique, mais qui est vraiment très personnelle et qui est amenée d'une manière très, voilà, très personnelle. Et est-ce que tu peux un petit peu préciser cette forme? Comment raconter cette histoire? Parce qu'il y a une thématique. Mais après, il y a une thématique, puis il y a Stéphanie qui raconte cette histoire et qui a envie de raconter cette histoire. Et puis comment on appose un format, un cadre là-dessus?
Alors la forme, je pense qu'au départ, je me suis un petit peu simplifié la vie, mais que finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc la forme, ce sont des billets séparés sur différents thèmes. Mmh. Et donc, c'est pas une histoire suivie. Alors bien évidemment, ça part de mon histoire à moi, de mon vécu à moi, et de certaines situations que j'ai vécues, mais ce sont vraiment des billets séparés et successifs. Mmh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'ai commencé ce projet, je suis arrivée à l'atelier, j'ai écrit un texte, j'ai écrit deux textes, on les lisait aussi entre nous, et puis j'ai dit à l'animatrice, mais je ne sais pas si je veux en faire un livre ou si je veux en faire un spectacle. Mmh. Et elle m'a dit...
Là, alors à ce moment-là, c'est fou ça.
Oui, oui, alors elle m'a dit, pourquoi pas les deux.
Ah, mais oui.
Donc, voilà.
Mmh. Et cette idée, pourquoi pas un spectacle, pourquoi pas les deux, je réalise qu'elle est présente dès le départ, quasiment.
Oui.
Est-ce qu'elle est restée présente tout du long, ou est-ce qu'il y a eu des allers-retours, des va-et-vient
Il a fallu faire un choix.
Oui.
Parce que l'écriture de scène n'est pas forcément la même écriture que l'écriture de bouquin. Mmh. Mais en même temps, ça a toujours été présent. Parce que, de toute façon, dans ma façon d'écrire, je pense qu'il y a quand même une certaine oralité qui est bel et bien présente.
Mmh, tout à fait, c'est vrai.
Et quand j'écris, j'ai déjà les textes en voix. J'imagine déjà pour certains textes les mises en scène. Mmh. Alors, actuellement, il y a peut-être trop de mots pour que ça rentre sur une scène, il y a peut-être plus de mise en scène à faire, mais les deux sont restés présents tout en ayant dû faire un choix actuellement pour l'écriture et quand il faudra mettre en scène, donc quand il faudra mettre en scène, il y aura encore un travail de réécriture à faire pour, mm-hmm. Pour alléger, faire des choix aussi de qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire.
Tout à fait. Et tout voilà. Rien n'est impossible. Je pense à tellement de projets qui ont été théâtre ou cinéma et avant roman. Enfin, tout est modulable, adaptable. Oui. Et j'adore quand tu dis quand et pas si. Ça, je trouve que c'est merveilleux d'entendre ça dans la voix d'une plume, c'est-à-dire que c'est quoi cette différence entre le quand et le si, quand tu insistes là-dessus, vraiment?
Le quand sera certain, uh-huh. sera peut-être pas tout de suite, parce que quand j'ai commencé ce projet aussi, on avait dans l'atelier préparé un calendrier avec l'évolution du projet, et qu'est-ce mmh. qu'on écrit, qu'est-ce qu'on écrit quand. J'aurais dû l'avoir fini 6 mois plus tard, on est à un peu plus de 3 ans, mais Je suis contente de ces 3 ans parce que ce projet a évolué avec moi. Mmh. Au départ, il y avait peut-être beaucoup plus de colère. J'avais aussi des choses à dénoncer, à mettre sur papier. Et puis, bah, petit à petit, ça s'apaise. Et d'ailleurs, ici, comme j'ai écrit des textes séparés, là, je suis en train de les réagencer et de les mettre en ordre. Mmh. Et cet ordre a un sens.
Voilà, c'est génial.
Et... alors que le message au départ que je voulais faire passer était plus de dénoncer des injustices, ici je termine sur une note, et ma note finale c'est le message qui va passer, mmh, sur quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus on va vers l'avant.
À fond, j'adore entendre ça parce que, évidemment, c'est un peu la philosophie du MOOC des livres, hein, c'est de mettre de la lumière.
On ne s'est pas rencontrés par hasard.
Non, ça c'est sûr, c'est évident, j'adore, je suis heureuse de cette rencontre. Mais c'est vrai que j'aime cette notion de prendre le temps ou de trouver le temps ou de laisser le temps faire pour qu'il y ait une lumière sur le chemin qui se dessine. Alors, bon, j'ai un côté bisounours, mais en même temps, il y a aussi un côté où on n'est pas obligé d'être tout le temps bisounours et lumineux. Mm-hmm. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une forme d'apaisement qui s'est construit dans le temps. Moi, ça me réjouit parce que je me rends compte que, évidemment, l'écriture n'est pas du tout la même. Le message final n'est pas du tout le même. Dans un temps T, où je le sors 6 mois après, dans quelque chose peut-être dans lequel je suis encore un petit peu, que c'est peut-être à vif, ou... et puis le temps et le recul se sont mis... Donc pour toi, 3 ans, c'est juste. T'as pas de regrets, tu...
Aucun.
Parfait.
Aucun.
Ah, c'est gai d'entendre ça. Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de plumes ou de jeunes auteurs, autrices qui parfois, enfin, beaucoup, et je me mets moi-même dedans, on est impatient. Quand on voit on a l'idée générale, on a l'image, on est impatiente. Comment as-tu travaillé du coup cette impatience? C'est ambivalent, tu t'es laissé le temps, et en même temps, je peux imaginer une forme d'impatience à certains moments. Je ne sais pas, je me trompe peut-être.
Mais le rythme évolue, il y a de l'impatience par moment, il y a de la lassitude pendant d'autres moments, il y a des moments où je l'ai laissé en jachère tout en sachant que j'allais y revenir. Mm-hmm. Pendant longtemps, j'en ai beaucoup parlé, ce bouquin, je l'ai énormément vendu avant de l'avoir écrit. Beaucoup de gens m'ont dit, mais on le trouve où? Et bah, mm-hmm, attends, je l'écris. Et donc, je me suis dit qu'à force d'en parler et à force, mmh, d'avoir des gens qui sont prêts à me l'acheter, il fallait peut-être que je l'écrive vraiment.
Ouais.
Et donc, voilà, je me suis rendu compte à certains moments aussi que j'en parlais beaucoup, qu'il existait beaucoup. Et puis, quand je retournais sur mon PC, je me rendais compte qu'il y avait plusieurs mois où j'avais pas écrit. Mmh. Et donc, voilà, ce sont des va-et-vient. Et puis, par moments, ça s'emballe. Et puis, c'est « je voudrais vraiment finir mon livre, il faudrait vraiment que… » Et puis, il y a « je sens que c'est le moment ».
Ouais. Et waouh. Comment tu sens que c'est le moment, justement? À quel moment ça pète à la tronche? Là, c'est le moment.
Ça pète pas à la tronche, non. Ça se détend dans les tripes.
Ouh, c'est beau. Ah, j'aime bien cette image aussi. Et comment ça se passe? Quand tu t'es dit, j'en parle beaucoup, je vois que j'ai des choses à raconter, j'entends ça, et j'entends, mm-hmm, ça souvent, j'ai des choses à raconter. Et en même temps, un jour, il faut se poser, ouvrir son PC et y aller. À quel moment tu dis là, fini de rire, on passe la gomme, je ne sais pas.
C'est par vague, c'est, ouais, vraiment par vague. Et dans les bouquins sur l'écriture que j'ai lus, il y a toute cette frange discipline. Et c'est vrai que la plupart des auteurs diront, mmh, il faut une discipline, il faut le fameux cul sur la chaise.
Oui, oui, on en parle souvent.
Qui effectivement fonctionne. Mais la discipline, bon, je ne suis pas auteur professionnel, donc ça a cet avantage-là, mais la discipline, voilà, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas encore mon truc, même, mmh, si je sais qu'à un moment, il faut que j'ouvre mon PC et que j'y aille.
Ouais.
C'est plus par vague et par pulsion. Maintenant, ce qui m'a aidé aussi, c'est de poser des petits actes concrets. Mmh. Parce qu'il y a un moment où j'ai beaucoup écrit dans ma tête. Je pense que je ne suis pas la seule, pour en avoir discuté avec Sophie, que tu as reçu aussi. On se dit, on prend un bain, on va faire une balade, etc. On a déjà tout un texte dans la tête et puis on s'assied, on écrit et ça sort. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand je dis, j'ai été faire une promenade, j'ai écrit mon texte, j'ai plus qu'à le taper.
Oh, moi, je le comprends entièrement. Ça t'habite, c'est là, c'est présent. Oui, oui. C'est comme un personnage. Il y a quelqu'un qui est là avec toi, une voix, je ne sais pas.
Et donc, il y a un moment aussi où il faut comprendre et accepter que oui, effectivement, le processus créatif, il est dans la tête, il est dans la vie, parce qu'il faut vivre pour pouvoir écrire. Mais il faut aussi pouvoir accepter que quand tu arrives devant ton PC ou quand on te dit « est-ce que tu as avancé sur ton projet ?» Tu ne peux pas juste répondre « oui, j'ai avancé sur mon projet, j'y ai pensé ». Non, il y a un moment où il faut l'écrire. Quoi.
Je reviens sur cette... pour moi, j'appelle ça une stratégie, mais je ne sais pas si tu vas me rencontrer à ce niveau-là ou pas. Mais quand tu dis « j'en parle aux gens » et je dis « je suis en train d'écrire », etc., est-ce qu'il y a une stratégie consciente ou inconsciente pour se mettre un petit peu... une contrainte pour ne pas perdre la face ou pour dire « bon, je l'ai dit aux gens, il faut que je le fasse » ou ça n'a rien à voir
J'avais commencé donc ce projet avec le fameux texte sur l'engagement et le fait de dire qu'une fois qu'on s'engage, il faut que ça se fasse. Mm-hmm. Après, par la suite, je pense que le fait d'en parler n'était pas, en tout cas consciemment, une stratégie, mais le fait d'être passionnée par mon projet.
C'est ça.
Et donc, en étant passionnée par mon projet, j'en ai beaucoup parlé.
Ouais.
Et puis, quand j'entends « écoute, dis-moi déjà combien il coûte, je te le paye », oui, mais c'est bon, il n'est pas écrit, quoi.
En tout cas, l'idée est déjà très, très vite acceptée, reçue par beaucoup de personnes. C'est aussi un signal positif pour t'encourager, j'imagine, oui. À ce moment-là.
Ce qui m'encourage aussi, quand j'écris des petits textes, pas mon projet de livre, parce que ça, je garde relativement secret, je ne publie pas sur les réseaux sociaux, sinon je ne vais pas vendre un livre que j'ai déjà à moitié dévoilé, je ne trouve pas ça honnête. Mais quand je publie des textes et que j'ai des retours positifs, ou en atelier, quand on me dit « tiens, ce que tu as écrit, c'était chouette », je me dis que ça valide ce que je peux penser de mon écriture. Et donc, ça me permet de dire « oui, ça vaut peut-être le coup de le faire réellement
». C'est chouette. Et effectivement, je pense qu'on peut, on doit. C'est bon d'aller chercher les encouragements, les mm-hmm. signaux positifs, où qu'ils se trouvent, en fait. Est-ce qu'on peut revenir maintenant un petit peu sur ce moment, du coup, où tu t'y mets ? Parce que oui, il ne s'est pas écrit tout seul. Il y a un moment où on s'assied quand même sur la chaise.
Oui.
On ouvre quand même le PC. Est-ce que c'est évident d'ouvrir ce clavier pour commencer ? Ou c'est un peu compliqué Qu'est-ce qui se passe dans ce moment, un peu avant ou pendant, quand on ouvre l'ordi et il faut taper sur le clavier, quoi ? Comment ça se passe pour toi, en tout cas ?
Comment ça se passe ? Ça se passe que donc, j'ai écrit des textes différents sur des thèmes différents. J'ai déjà le thème en tête quand j'ouvre le PC.
Ouais.
Sinon, ça fait trop peur.
D'accord.
Sinon, ça fait trop peur de ne pas savoir où je vais, donc... En général, j'ai déjà le thème en tête. Comme j'ai déjà le thème en tête, j'ai à peu près la structure. Mm-hmm. Et j'ai cette grande chance qu'une fois que je l'ai en tête, ça coule assez vite et assez facilement.
Magique. C'est une grande chance, c'est sûr. Et en même temps, il y a quelque chose que tu révèles d'un processus d'écriture qui n'est peut-être pas celui de tout le monde, mais mm-hmm. que plusieurs auteurs, autrices vivent, je crois quand même, pour en avoir entendu parler régulièrement. Tu l'as mentionné, le truc est quand même déjà construit dans ta tête, est déjà oui. présent dans ta tête. Donc écrire, est-ce que c'est que écrire sur un clavier ? Ou est-ce qu'il se passe autre chose autour, avant
Je pense qu'il se passe autre chose autour, avant, dans la tête. Et puis, il y a le clavier, il y a la façon de présenter les choses. Ici, comme j'avais écrit des textes séparés, j'ai dû... Les coller les uns aux autres, leur donner un certain ordre. Mmh. Je m'étais dit que ce serait facile, que c'était la petite cerise sur le gâteau. C'est très, très compliqué.
Voilà. J'allais te demander justement, est-ce que tout est facile ? Est-ce que tout coule de source tout le temps ?
Après, les pièces du puzzle se mettent en place. C'est un peu comme dans la vie, finalement.
Mmh. Ah.
On a plein de choses devant soi. On se dit, mais il n'y a rien qui va ensemble. Comment est-ce que je vais emboîter tout ça ? Et puis on emboîte deux pièces et puis on finit avec le puzzle. Et donc, j'ai écrit tous les titres de mes chapitres, qui sont mes petits textes. J'ai tout écrit sur des post-it et je les ai collés sur le mur de ma chambre pour essayer de les mettre dans le bon ordre.
Je me souviens d'une photo que nous avons reçue, oui.
Oui, oui.
écoute, chacun ses techniques. Et justement, quelles sont tes techniques en écriture ? Est-ce que tu as des astuces ? Est-ce que tu as des petites choses que tu as découvertes dans ce processus progressivement qui fonctionnent pour toi ? Et peut-être te dire, je me suis détachée d'autres façons de faire. Je pense que chacun et chacune apprivoise certaines manières de travailler. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, au fur et à mesure ?
En fait, y a des thématiques qui me sont rapidement venues à l'esprit. Donc, j'ai fait des listes de thématiques que je voulais traiter. J'ai barré au fur et à mesure. J'en ai intégré certaines à d'autres. Et donc, j'en suis arrivée à ces petits textes. J'aime beaucoup jouer avec les sonorités, avec les répétitions, avec les phrases très, très courtes.
Oui, ouais, c'est vrai.
Et donc, je pense que mon écriture se travaille essentiellement dans le rythme. Et puis, j'ai un gros côté paresseuse.
Non,
si.
Allez.
Et donc, quand il y a des textes que je fais en atelier ou sur proposition d'atelier en ligne ou des choses ainsi, et je me dis, mais tiens, là-dedans, il y a peut-être quelque chose que je peux réutiliser pour mon projet, je recycle.
Mais en fait, c'est OK. Moi, je trouve que c'est OK. Si ça reste cohérent, si ça rentre vraiment dans la thématique, pourquoi pas ? Je pense que les escaliers, moi, j'ai une drôle d'image, les escaliers. Les ateliers sont aussi des prétextes pour créer l'impulsion et l'étincelle. Et donc, tu recycles. Et toi, tu es OK avec ça, quoi.
Tout à fait.
Bah ouais, pourquoi pas.
Oui.
Et tu recycles, tu le reprends brut, tel quel, ou tu tricotes un peu pour que ça rentre dans le truc
Ça dépend. Ça dépend. Parfois, ça rentre dedans. Parfois, c'est une nouvelle thématique autour de laquelle je brode. Parfois, je reprends quelques phrases. Voilà. Et puis parfois, je reprends des textes d'atelier et j'en refais autre chose. Et voilà.
Oui. Est-ce que ce n'est pas un travail de bricoleuse, en fait, parfois aussi, l'écriture?
Il n'y a qu'avec l'écriture que j'arrive à bricoler, alors.
Pourquoi j'amène cette image de bricoleur? Mais oui. Je sais que, oui, il y a quand même un petit côté, à mon avis. Et tu parlais de puzzle aussi. Il y a des pièces. Il faut que tout rentre dans un cadre.
Il faut que tout rentre ou pas. Parce que s'il y a une pièce qui finalement ne rentre pas dans mon bouquin, vaut mieux qu'elle reste dehors plutôt que de gâcher l'image.
Ah voilà, oui. Donc toi, t'es OK d'avoir écrit des choses et de te dire que finalement, elles ne vont pas être utilisées?
Oui, ça c'est ce que je te dis. C'est pas ce que j'ai fait ce matin.
C'est compliqué ça parfois, d'écrire des choses, d'avoir passé du temps, peut-être même d'avoir peut-être un peu sué dessus, et de se dire finalement non poubelle. Tu l'as déjà vécu concrètement?
C'est jamais non poubelle, c'est non mais sur le côté, peut-être qu'un jour ça fera autre chose.
Voilà, et c'est beaucoup plus clair, enfin c'est plus agréable de dire ça.
Tout à
fait. Ouais, c'est bien, c'est très sain de se dire ça. Oui, mais je vois exactement de quoi tu parles. Là, on parle vraiment de la manière de construire le récit, la façon d'y aller, d'écrire. Et puis, j'ai envie de revenir vers une notion qui est aussi que tu écris sur toi. C'est assumé, jusqu'à présent.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles, avec une thématique qui est sensible et dans laquelle tu amènes beaucoup de force et de délicatesse, je trouve. Mais tu travailles sur toi, tu écris sur toi. Est-ce que c'est facile parfois de repasser par des situations, des souvenirs? Est-ce que c'est facile de verbaliser ces choses-là quand tu parles de la thématique de l'obésité et de ce que tu as vécu, etc. Je sais que ça touche à différents milieux aussi, que ce soit amical, voyage, familial. Est-ce que c'est confortable tout le temps?
Oui. Oui, c'est confortable parce que je sais pourquoi j'écris. Je sais que j'ai des choses à dire. Je sais aussi que c'est très utopiste et oui, moi aussi j'ai mon côté bisounours. Même si mon bisounours est plus acide que le tien.
Ouais, mais il rentre bien dans l'équipe des autres bisounours, je trouve.
Oui. Mais c'est ma façon à moi de changer le monde. Parce qu'il y a des comportements dans la société qui ont lieu, mais pas forcément de façon méchante, parfois simplement de façon maladroite. Et je pense qu'en dénonçant les choses, on peut faire prendre conscience aux gens que y a peut-être des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et donc, moi, c'est la pierre que j'ai envie d'apporter au monde.
Oui. Écoute, je te sens hyper apaisée, je te sens hyper sereine par rapport à tout ça, très claire par rapport à ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Tout ça a été très net dès le début, ou c'est aussi dans l'écriture progressivement, sur plusieurs années ou mois, que cette clarté s'est affirmée
La clarté du message était présente dès le départ. Les émotions par rapport au message ont peut-être évolué.
Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut un peu gratter de ce côté-là ou pas?
Oui. Mais donc, au départ, je pense que j'avais... Oui, des choses à dénoncer, de la violence aussi par rapport à cette problématique d'obésité à dénoncer, avec une certaine colère du fait de la violence elle-même, mais aussi du fait de ne pas être entendue. Et puis, ben, bon, ça ne fait que 3 ans, mais j'ai quand même un peu vieilli. Et donc.
Tu as mûri, tu.
J'ai mûri.
Tu t'es bonifiée.
ça va, c'est de la radio, on ne me voit pas. Mais, oui, le fait d'avoir mûri fait que peut-être, la colère est moins présente, il y a plus d'apaisement. Mais du fait de cet apaisement, il y a peut-être même plus d'affirmation.
Mmh. Ah, j'entends ce mot-là. Je l'entends et je le ressens pour être témoin ponctuellement de cette évolution. J'ai un souvenir, je crois que c'était un peu plus d'un an, tu étais venue à un week-end d'écriture et je me souviens d'un moment quand même de grande sensibilité où j'ai découvert un côté plus vulnérable de Stéphanie. Oui. À partir de là, j'ai vu le chemin qui continuait et je voyais ce côté affirmation qui commençait à chaque fois à redevenir plus puissant. Quoi. Moi, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de très, très fort. Cette vulnérabilité, tu l'as ressentie aussi? Ou c'est moi juste qui me suis trompée en étant témoin extérieur
Je l'ai ressentie par moments. J'ai ressenti de la vulnérabilité aussi dans la colère. Maintenant, la vulnérabilité ne me pose pas de problème. Enfin,
voilà, c'est ça. Voilà. Quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment important d'entendre ça parce qu'il y a deux choses, affirmation et vulnérabilité. Et j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne te pose de problème actuellement.
Non.
Est-ce que c'est libérateur de ressentir ça aujourd'hui, en 2021, à presque la fin du projet? Est-ce que c'est libérateur de dire j'assume, j'affirme? Et même mes côtés bisounours, même un peu punk,
oui.
un peu trash, et même ma vulnérabilité, j'assume tout. C'est quoi cette sensation alors?
Cette sensation, bah, là actuellement, comme je suis sur la fin de l'écriture en tant que telle, j'ai relu beaucoup de choses et j'ai viré, mais vraiment la poubelle, quelques phrases en me disant non, ça c'est de la méchanceté gratuite et c'est pas ça que je veux. Et les mots qui restent, du coup, il y en a un peu moins. J'en ai rajouté d'autres, c'est pas grave. Mais les mots qui restent sont justes.
C'est ça.
Ils peuvent parfois être durs. Il y a de la vulnérabilité, il y a des choses plus dures, mais tout est juste.
C'est ça. Avec ce travail de relecture, en fait. Il est oui. important, ce travail de relecture, pour toi?
Ah, il est kiffant.
Ah, j'adore entendre ça. Il est kiffant. Qu'est-ce qui se passe quand tu te relis, quand tu te redécouvres?
Ah, quand je me relis, quand je me redécouvre, il y a, j'aime bien ce que j'ai écrit, c'est plaisant à lire, je m'ennuie pas quand je lis, voilà, je me dis ouais, ce qu'elle a écrit cette nana-là, c'est pas mal.
Moi, j'adore entendre ça parce que c'est tellement décomplexant, quoi, parce qu'on peut dire qu'on aime ce qu'on a écrit. Alors oui, peut-être qu'on est plus ou moins satisfaite d'un passage ou dans un autre, mais ce que j'entends aussi, c'est plaisir. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore été à fond dans ce domaine-là. On a entendu des choses à dire. J'ai découvert aussi un style, un rythme qui était le mien. Mais ce plaisir, j'entends, c'est kiffant. Et bon, là, je te vois ultra sourire. Je ne sais pas si ça va se sentir dans le podcast, mais je vois ton visage illuminé, pétillant. Il est où le plaisir dans cette écriture, alors, dans ce processus, ce travail?
Alors, moi, le plaisir dans l'écriture a été... depuis très longtemps, le plaisir du résultat. De me dire, ouais, j'ai fait un chouette petit truc.
Ouais.
Voire même, une étape plus loin, le plaisir, c'est d'avoir en retour, alors c'est totalement égocentrique, mais d'avoir en retour le « ce que t'as fait est bien » et que des gens aiment ce que j'ai écrit. Et là, actuellement, dans le processus de relecture et d'agencement, j'en suis au plaisir dans le travail.
Ah, dans le travail, vraiment, oui.
Enfin, dans le travail d'écriture, si on peut appeler ça un travail.
Oui, justement.
C'est un processus, maintenant. Travail, c'est...
Ah, voilà. C'est gay. J'adore. Je suis juste témoin, je suis au théâtre, je regarde ce qui se passe devant moi et je trouve ça merveilleux. Et on l'appelle comme on veut. Pour moi, il y a quand même une forme de travail, mais on peut aussi surkiffer son travail. Donc,
oui.
Donc voilà. Est-ce que c'est égocentrique? J'entends très souvent ça. Ah, je le ressens aussi parfois, mais est-ce que c'est un égo trip de aimer recevoir des retours positifs des autres? C'est vraiment ça? Ou c'est ce qu'on se dit pour être un peu modeste ou...
Ben, y a une différence entre aimer recevoir des retours positifs et se dire je vais poster mon texte sur Facebook et je compte le nombre de likes.
Ouais, ouais, ouais.
La frontière est quand même très très mince.
Mm-hmm.
Maintenant, voilà, on est comme ça, on est comme ça. Je pense que bah, cette société des réseaux sociaux fait qu'on a tendance à amplifier ce côté-là. Mm-hmm. Voilà.
Oui, oui, oui. Pourquoi on le fait ? C'est vraiment la question que je me demande. Pourquoi tu le fais ? Il y a des choses à raconter. Donc, en fait, je me dis, de l'autre côté, on attend un retour. Est-ce que ce n'est pas normal ? Est-ce que ce n'est pas juste ?
Moi, j'écris pour être lu. Ouais. Ça, c'est clair. J'ai pas des... Oui, j'ai des textes dans des cahiers qui n'ont été nulle part. Mais je n'ai pas des cartons de textes dans des cahiers dont je n'ai rien fait. Mm-hmm. Je pense qu'il y a des gens comme ça qui écrivent beaucoup, mais que tout reste dans les tiroirs parce qu'ils ne veulent pas dévoiler. Pour moi, l'écriture, c'est du partage. Mm-hmm.
Donc, c'est important, ça.
Ça ne me paraîtrait pas cohérent d'écrire si c'est pour ne pas être lu.
C'est ça, oui. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as écrites et dans lesquelles tu étais complètement OK d'être, parce que ça reste encore relativement secret ? Est-ce que quand tu te projettes, et ce n'est pas un si, c'est un quand oui. ce sera lu, partagé au monde, est-ce qu'il y a quand même des petites réticences, des petites appréhensions par rapport à certaines choses que tu as dites et offertes ?
Je me sens juste par rapport à tout ce que j'ai écrit. J'essaye effectivement d'être juste. Alors, il y a des passages qui sont effectivement un peu plus grinçants. Mmh. Maintenant, ils sont justes pour moi.
Ouais.
Et donc, je pense que oui, il y a des réticences, mais je pense que c'est un pas à franchir. Et si j'ai écrit, c'est aussi pour écrire ces choses-là et pour les dire.
C'est ça.
Donc, les enlever n'aurait pas de sens.
Oh, tu me mets dans un état... Ça fait écho à plein de choses, c'est-à-dire que, ouais, si tu fais pas ça, tu auras loupé en fait l'objectif ultime.
Tout à fait. Tout à fait.
Et ça a l'air d'être tellement évident dans ta tête.
Oui.
Parce que parfois c'est pas si évident, tu vois. Parfois tu le fais, tu y vas et tu sais pourquoi. Et puis tu freines des cas de fer. J'ai déjà été témoin de ça. Parfois, tu freines des cas de fer avant de faire le saut final, quoi.
Oui, j'ai aussi un petit peu quelques sécurités en me disant, bah. Une fois que j'aurai terminé ça, bah, je le confierai en relecture à des personnes bienveillantes dont je connais la sensibilité. Et je sais, sans leur confier la responsabilité de mes propos, je sais que s'il y a quelque chose qui ne passe vraiment pas, qu'elles me diront, bah, écoute, est-ce que tu penses que c'est judicieux ou pas ? Est-ce que tu as réfléchi à ça ? Et donc, voilà, je fais aussi confiance aux personnes qui m'entourent.
Et comment tu t'entoures, justement ? Comment tu sélectionnes ces personnes ? Comment tu te dis, c'est là ou cette personne ou telle... Comment je fais confiance, quoi ? Il faut faire une grande confiance pour ça.
Pour ça, particulièrement, plusieurs choses. Les compétences, ça, c'est clair et net.
Mmh. C'est important.
C'est la base, à mon avis. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a des valeurs communes.
Oui.
Parce que, en plus, pour parler d'un sujet sensible, c'est pas un livre de recettes. Donc,
oui.
Je pense qu'il faut avoir des valeurs communes et des gens qui sont capables tant de bienveillance que de critique constructive.
C'est ça. Donc toi, la critique ne te fait pas peur.
Absolument pas.
C'est ça. Tu l'accueilles et tu sais qu'elle est au service de quelque chose
tout à fait.
De juste, d'efficace. On entend efficacité aussi,
oui.
Quelque part. Quoi. Mais oui, et est-ce que tu dirais plutôt que tu es une écrivaine ou une autrice solitaire ou tu t'entoures, tu as une team, une clique, comment ça se passe ?
J'ai rencontré via tes ateliers d'autres plumes desquels je suis proche, avec lesquels je vibre vraiment sur la même longueur d'onde.
Oui, c'est beau.
Oui, merci.
Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai
merci de les avoir mis sur ma route.
C'est beau, c'est très beau.
Et donc oui, il y a une team, il y a une chaleur, il y a un encouragement. D'ailleurs, quand j'écris, ça m'arrive régulièrement de me faire mon petit thé dans mon mug Le mot qui délivre et c'est le mug d'écriture, je ne l'utilise pas pour autre chose.
Ah,
il ne sert qu'à ça. Maintenant, dans l'écriture elle-même, je suis assez solitaire. Mm-hmm. Donc, il y a les énergies autour. Maintenant, qu'est-ce que je dois écrire ? Est-ce que je peux avoir ton avis ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Non, je suis assez solitaire dans l'écriture.
Je trouve que ça se sent, mais c'est bien. Hein. Moi, je trouve que ça se sent, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment perçu et en fait que j'admire, quoi. Parce que se lancer dans un projet, et puis en plus sur soi, qui mobilise des sensibilités, des inconforts, même s'ils n'ont pas été nombreux, mais quand même, et d'y aller seule, je dis mais quel bagou quoi, franchement, et je t'admire, je suis admirative de ça. Et en même temps, tu amènes une notion qui est que j'entends parfois, oui, on n'écrit jamais seul. Et en même temps, là, tu amènes un truc. Quand tu écris seul aussi. T'es seul dans ce que tu amènes.
Je suis seule dans ce que j'amène. Je suis seule dans ce que j'écris. Je pense notamment au cercle d'écriture auquel j'ai participé, où c'était super chouette. J'étais contente de voir d'autres personnes, de discuter avec d'autres personnes. Mais le temps d'écriture, je suis seule. J'ai pas... En tout cas, dans mon projet actuel, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide à gauche ou à droite. Aide qui est totalement disponible dans le cercle que tu mets en place, mais dont j'ai pas ressenti le besoin.
C'était hyper équipé déjà en toi-même. Quelle force intérieure. Moi, je le vois comme ça. C'est une grande force. Je sais pas si je me trompe. Comment tu le ressens, toi, vis-à-vis de toi-même?
Je le ressens comme quelque chose de très juste. Maintenant, savoir si c'est une force ou si ça n'en est pas, c'est là, c'est tout.
Ouais, c'est là. Et tu fais avec ce qui est, quoi. Et,
tout à fait.
Moi, ce que je trouve ça merveilleux, c'est qu'en fait, il n'y a jamais la même façon d'écrire, il n'y a jamais la même façon de travailler. C'est ce côté pluri, tu vois, qui est beau, quoi. Et chacun a créé sa petite alchimie pour écrire. Et je vois que tu mets un dosage. C'est aussi une question de dosage, tu vois, être entouré. Mais il y a aussi des moments où c'est moi seule et tout va bien. Est-ce qu'il y a quand même un moment donné ou pas où tu te dis là je me sens vraiment seule, noyée? Est-ce qu'il y a des moments de down? Est-ce qu'il y a des moments il faut un peu en parler aussi parfois, parce que là on entend beaucoup de positifs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de positifs effectivement dans ce projet, mais est-ce qu'il y a des moments où c'est vraiment compliqué, t'es noyée? Est-ce qu'il y a du moment de grand désespoir presque tragédien ou pas?
Non, si c'est du désespoir et si c'est tragédien, ben j'écris pas et j'y reviens après.
Oui,
j'y reviens après.
C'est lié à la notion de plaisir, ça, alors ou...
À la notion de... ça vient pas pour l'instant, et puis c'est tout.
Ouais.
Je suis fort dépendante de mes émotions, donc les émotions me fatiguent énormément.
Ah, ça, oui.
Et quand je suis fatiguée, je ne sais pas écrire. Donc, il faut juste accepter qu'à ce moment-là, c'est pas le moment, et puis c'est tout.
Et si ce moment s'éternise? Je ne sais pas, c'est un si hypothétique. Et si ce moment s'éternise, t'as toujours confiance
Et si ce moment s'éternise, on met 3 ans à écrire un bouquin.
Ah voilà. Et qui se termine, et qui se fait quand même.
Et qui va se terminer, parce que depuis le départ, j'ai décidé que je le terminerais. Mm-hmm. Et chaque fois que j'en ai parlé, même quand ça faisait plusieurs mois que j'avais plus écrit, c'était j'écris un bouquin, et mon bouquin, il va sortir.
Et tu n'en démords pas.
Et je n'en démords pas, et je n'en démordrai pas.
Mais j'entends une éloge de la lenteur très forte. Moi, j'adore, tu sais bien, moi, slow. Dès qu'on peut un peu en mettre quelque part, cette lenteur, elle est vraiment... elle porte ses fruits, quoi, en fait. C'est bien de l'amener dans cette discussion, je trouve.
Est-ce que c'est de la lenteur? Est-ce que c'est de la digestion? Est-ce que c'est de l'évolution?
Moi, j'entends aussi beaucoup d'évolution, parce qu'on passait d'un état de colère et de... Peut-être d'émotions à vif, à quelque chose de plus travaillé, de plus posé. Ça change, c'est sûr.
Quelque chose de plus posé et peut-être de plus profond. Mm-hmm. Les premiers textes que j'ai écrits étaient très humoristiques.
Je savais
qu'il y avait le nœud que je voulais aborder et que j'ai mis plusieurs mois à aborder. Et en fait, dans le processus d'écriture, c'était assez particulier parce que j'avais fait beaucoup de choses légères.
Ouais.
Je savais que j'avais des choses un peu plus lourdes à aborder. Mais j'arrivais toujours pas à les aborder, donc peut-être que ça a été un frein pendant quelques temps. Et puis une fois que j'ai abordé quelque chose de plus lourd, pour moi, c'est bon, c'était fini, mais j'avais encore des choses à dire.
Ouais.
Et je pouvais pas laisser tomber le reste, donc me remettre à du plus léger n'était pas évident non plus.
C'est ça, oui, il y a un peu deux niveaux, quoi, en fait.
Mais je voyais deux niveaux. À la relecture, oui, il y a des niveaux très légers, des niveaux très... très lourds...
Profond,
il y a des niveaux plus profonds. Maintenant, je pense que c'est moins contrasté que ce que j'aurais cru au départ.
Parce que tu as pris un peu cette relecture globale
J'ai essayé d'alterner les textes plus légers avec les textes plus lourds, pour éviter de plomber les gens sur 3 textes d'affilée.
Oui, ça c'est la question aussi qu'il faut se poser. Oui.
Et puis, en relisant, je me dis « Ah, ça c'est positif. Ah, ça c'est plus lourd. Ah, c'est positif. » Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit « Mais tiens, ça, ça peut être positif, mais... il y a quand même un côté plus profond.
C'est ça.
Et donc,
nuances.
En fait, c'est plus équilibré que ce que je pensais.
Ah, donc c'est une heureuse surprise au final.
Oui.
Tu t'es pas dit, oh là là là, il faut que je réécrive toute la première partie ou... Je sais pas.
Avec mon côté paresseux, ça ne risque pas.
Mais tu mentionnais Sophie, et c'est vrai qu'il y a des manières tellement différentes d'écrire. On peut retravailler, remettre le travail sur le métier un nombre incalculable de fois, et que ce soit juste et justifié.
Oui.
Et là, tu amènes autre chose. C'est qu'en fait, il y a là, quoi. C'est comme ça.
Ah, mais Sophie, dans son processus d'écriture, je l'admire. Mais je ne pourrais jamais écrire comme ça.
C'est
jamais.
Ça. Oui.
Maintenant, je trouve que ce qu'elle fait est formidable et courageux. Je trouve ça admirable, la discipline qu'elle a.
Oui.
Enfin, mais c'est pas moi.
C'est ça.
C'est pas moi et ce sera jamais moi.
En fait, il faut juste garder ça, quoi. C'est pas moi.
Mais oui.
Et ça ne va pas fonctionner avec moi, pour moi. C'est aussi une grande intelligence de s'en rendre compte, quoi.
Si j'applique les techniques de Sophie, je pense que je vais écrire quelque chose qui ne sera pas valable du tout et je suis en dépression au bout de 15 jours.
Voilà, oui. J'aimerais revenir du coup sur ces livres et ces lectures ou ces outils avec lesquels on s'entoure parfois pour se sentir plus équipé. Parfois, tu lis des livres et tu ressens des choses, tu reçois des infos d'un auteur, d'un professionnel. Oui. Et donc, parfois, tu te dis, tu te rends compte, c'est pas pour moi.
Tout à fait.
Et alors, c'est grave ou pas?
Au départ, on se dit, ouais, je vais essayer de faire comme lui.
Je vais essayer, ouais.
Ouais, ça tient une demi-heure. Et puis, on passe à autre chose.
Ouais, c'est ça.
Et puis, se dire aussi que ces livres qui sont écrits par des auteurs pour nous donner leur façon de faire, j'en suis pas à ce stade-là,
ouais.
J'en suis pas à écrire des livres pour gagner ma vie, j'en suis pas à écrire 8 heures par jour. Et si c'était le cas, peut-être que j'aborderais les choses différemment, très certainement, mais là, c'est pas le cas.
Oui, à côté, retour à la réalité, et on fait avec ce qu'il y a aussi, quoi. Et en fait, beaucoup de gens écrivent avec du travail, une vie active. Et...
Oui.
Et donc voilà, est-ce que ces formules fonctionnent pour tout le monde?
Je ne sais pas, je ne pense pas. Maintenant, il est clair qu'un Marc Lévy ou qu'un Guillaume Musso doivent écrire 8 heures par jour, à mon avis.
Oui, probablement. Mais moi, j'avais entendu Julia Kerninon, justement, dans un podcast, qui avait dit quelque chose que j'aimais beaucoup. Parce qu'elle a été doctorante, elle est publiée, elle a une expérience qui me parlait très personnellement. Et elle disait, en fait, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de règles.
Non.
Une fois qu'on a intégré ça, tout roule, quoi. Ça a l'air tout con comme ça. Mais je pense que tu l'as très vite intégré, toi, et que ça te réussit bien.
C'est en tout cas comme ça que je fonctionne. Et de toute façon, je ne peux pas écrire avec autre chose que ce que je suis.
Ben voilà.
Et je ne peux pas vivre avec autre chose que ce que je suis.
Oui, il y a un parallèle, en fait, qui s'installe.
Oui.
C'est ça. Ce serait aussi nier, dans sa plume, nier quelque chose de soi, c'est se nier soi aussi.
Oui.
Je trouve ça très parlant, vraiment. Est-ce que tu as un conseil parce que tu es autrice, là. Tu es écrivaine.
Oui.
Allez, on peut le dire.
Oui, on le dit.
Maintenant, on le dit. Est-ce que tu as un conseil à transmettre de toute cette expérience et de ce parcours que tu as traversé, que tu es encore en train de traverser, là, vers la fin? Un conseil à partager?
Oser. Oser. Si on a envie de le faire, qu'on le fasse. De toute façon, c'est que l'écriture, c'est quelque chose d'en partie solitaire. Donc, si on a envie de le faire, ça ne nécessite pas... De formation particulière, ça peut, mais pas forcément, ça peut se faire dans un coin de salon, de chambre, c'est adaptable, donc il faut oser, et ne pas se censurer, je pense.
Ah, oulala, t'amènes un gros morceau là. On pourrait repartir encore pour une heure d'échange du coup, mais ne pas se censurer, est-ce que tu peux juste un petit peu éclairer ce que ça signifie pour toi?
En deux mots, et notamment aux ateliers et au cercle, j'ai entendu souvent dire « j'aimerais bien décrire ça, mais j'ose pas ». Mais dans mon écriture et dans ce projet, je me suis dit « mais c'est pas grave, je lâche tout, même si ça se dit pas, même si... » Voilà, c'est un premier jet. Après, il sera toujours temps de retirer si ça ne va pas, si c'est pas juste.
Clairement.
Mais en attendant, je lâche et je dis. Et puis après, on retravaille s'il faut.
Écoute, je retiens, je lâche tout. Ça a l'air simple, hein?
Oui.
Mais ouais, merci d'amener ça. Merci de le rappeler aussi éventuellement à d'autres personnes. Oser, c'est pas rien, mais quand on y va...
Et tant que c'est pas sorti du PC, tant que c'est pas communiqué... On ne l'a que pour soi, donc il n'y a pas de risque.
Il n'y a pas de risque. Ouais.
Ah, il y en a après, mais sur le moment, il n'y a pas de risque.
Mais c'est réjouissant d'entendre ça. C'est juste entre toi et toi au départ.
Oui.
Donc tout va bien.
Oui.
On va rester là-dessus, j'adore. Tout va bien. Est-ce que tu penses, tu aimes les mots, tu aimes les sonorités,
oui.
Tu aimes le rythme, tu aimes les images. Tu as parlé avec beaucoup d'images ici lors de notre échange. Est-ce que pour toi, il y a un mot ou des mots qui délivrent, qui véhiculent quelque chose d'important?
Je pense que l'important, ce n'est pas forcément le mot, c'est la façon dont il est reçu, qu'un mot puisse être reçu, entendu, compris. Et donc, si j'avais un mot à te donner, j'utiliserais le mot « reconnaissance ». Parce que la reconnaissance dans ses différentes acceptions, la reconnaissance d'une réalité, la reconnaissance de ce qu'on est, et puis la reconnaissance des âmes qui vibrent sur la même fréquence.
Excuse-moi, j'ai un rush chaud là. Je ne m'attendais pas du tout à ce mot-là, parce que je n'ai pas l'habitude d'entendre ce mot-là souvent. Et la manière avec un naturel et... un côté tellement clair avec toi d'amener ce mot reconnaissance, c'est important.
Oui.
En fait, c'est moi qui te remercie là, de l'amener ici.
Je frissonne aussi maintenant.
Ah, c'est fou. Ah non, je te jure, là, c'était fort. Reconnaissance. J'ai envie qu'on conclue avec ça parce que c'est important pour toutes les acceptions que tu viens d'amener justement. Moi, je te reconnais. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui te reconnaissent déjà. Et d'autres qui vont bientôt te connaître. Merci beaucoup Stéphanie.
Merci à toi.
Réjouissant, ça fait plaisir. Et on se projette dans la publication et dans la lecture de ce recueil de textes pour bientôt.
Pour bientôt.
Merci.
Merci à toi.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire. Et laisse les mots te délivrer.